Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, votre hôte, et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut.
Bonjour
Julien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Pour parler d'un film d'action slash catastrophe, tu vois, et alors là, on est dans tes deux genres préférés, on est d'accord.
Ah bah c'est clair que j'ai un peu milité pour qu'on fasse ce film-là.
Voilà, donc le film s'appelle Pluie d'enfer.
Oui.
On le précise, alors en anglais c'est Hard Rain, de Michael Salomon, qui est un film, ma foi, je pense aujourd'hui, un petit peu oublié. C'est un film qui était un très gros budget, mine de rien, dans sa sortie à l'époque. Hein. En tout cas, c'était censé être relativement un blockbuster, quoi.
Ouais.
Dans les 70 millions de dollars.
Dans les 70 millions de dollars, on est en 98. Hein, donc
on est en 98, donc c'est quand même les budgets de Face Off ou de Volteface ou des Ailes de l'Enfer, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'était quand même un très gros film. Christian Slater était une star prometteuse à ce moment-là.
Plus que prometteuse, il avait déjà quasiment transformé. Hein. Il avait tourné avec.
Ouais, mais pas pour les studios. C'est-à-dire, il avait fait beaucoup de films, indépendants, qui n'avaient pas forcément tous marché. Hein. Je pense à notamment True Romance ou Heathers, etc., etc., qui étaient des petits trucs. Mm-hmm. On sentait que c'était un bon acteur, mais la star d'action, c'était avec Broken Arrow juste avant. Mais au moment où en fait, Pluie d'enfer s'est tourné, Broken Arrow n'était même pas encore sorti. On va en parler aussi. Il y a tout un truc. Il y a deux ans qui séparent les deux films. Mais en vrai, c'est un film qui est resté longtemps sur les étagères du studio, quoi. Alors, on s'avance, mais faut pitcher maintenant.
Ah ouais, c'est le moment.
C'est très simple quand même, ça.
Le pitch, effectivement, il est relativement simple, voire très simple. C'est un groupe qui décide de profiter d'un déluge pour braquer un fourgon blindé qui est tenu par Christian Slater. Christian Slater décide à ce moment-là de récupérer l'argent et de le cacher, et c'est un jeu du chat et de la souris entre le groupe de braqueurs qui veut récupérer l'argent et Slater qui veut pas le leur donner. C'est tout simple, tout bête, et ce qui change tout au final, c'est vraiment la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe en plein milieu d'une inondation relativement monstrueuse.
Dans une petite ville.
Dans une petite ville.
Voilà, de province, enfin, je sais pas exactement où c'est d'ailleurs.
Dans l'Indiana.
L'Indiana, c'est ça, voilà. Très peu de personnages, oui. Mine de rien, il y en a une dizaine, hein, à peine, hein, dans le film, quoi. Un film qui se passe intégralement sous la pluie.
Intégralement.
Vraiment, je me disais en revoyant le film, parce que moi j'avais bien aimé le film, je trouvais ça sympathique, hein, c'est pas un grand film, mais c'est plutôt un film sympathique. Je le dis d'entrée de jeu, mais on va en parler, quoi. Toi, je pense que t'es un peu plus dithyrambique que moi quand même, malgré tout, quoi.
Ouais, c'est mortel, quoi.
Voilà. Ouais. Ce qui est très surprenant, et moi je l'ai vu peut-être une fois à l'époque en salle et une fois en vidéo, quoi. Et puis je l'ai revu pour le podcast, là, donc récemment. Ce qui est très surprenant, c'était de se dire à chaque fois, mais tous les plans, c'est Pneumonie the Movie, quoi. Ils ont tous attrapé la mort, c'est pas possible.
Ah, c'est clair que le tournage a pas été le tournage le plus fun de l'histoire qu'ils ont fait, puisqu'ils passaient en moyenne donc 12 heures par jour dans la flotte, sous des rampes à pluie, enfin, trempés comme des soupes, tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire que même quand tu finissais ta prise, ce qu'il fallait faire, c'était aller te changer pour la prise suivante, si par hasard c'était une prise où t'étais pas mouillé, pour pouvoir te remouiller derrière, quoi.
Ouais,
donc Christian Slater en avait déjà d'ailleurs beaucoup parlé à l'époque en disant, mais ce tournage, je pensais que ça allait être difficile, je m'étais trompé, c'était pas difficile, c'était l'enfer, sans mauvais jeu de mots.
Voilà. Alors on va parler peut-être un petit peu du concept en soi, de d'où ça vient quand même, mine de rien, parce qu'il y a un scénariste, hein, derrière. Alors on a fait un épisode avec l'ami Julien Dupuis que vous avez peut-être entendu, qui s'appelle Speed, et Speed, en fait, c'était à la base un scénar de Graham Yost.
Ouais.
Graham Yost, grâce au succès de Speed, est devenu un scénariste très tendance à ce moment-là. Alors depuis, il a rebondi, parce que avec ce film, il s'est quand même bien planté. C'est un film qui s'est bien planté, faut le dire. Hein. C'était un très gros bide à l'époque.
Quoi. Ah bah tu l'as dit, c'était 70 de budget. On a que les recettes US, on n'a pas les recettes monde. On est sur des recettes de 19 millions, donc c'est ridicule.
Voilà. Et donc c'est les attentes de, je crois que c'était Paramount à l'époque, en fait, n'ont pas du tout été tenues, quoi. Et surtout à la mesure du fait que bah voilà, Graham Yost c'était le scénariste de Speed, le créateur, on va dire, de ce concept-là ou de celui de Broken Arrow, quoi, qui était aussi un succès moindre, mais quand même un succès, quoi. Et depuis il s'est refait à la télé avec Justified et ce genre de choses.
Excellente série, si vous l'avez pas vue, je vous la conseille franchement, c'est très 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 bien Justified.
Voilà. Et donc sur Hard Rain, qui s'appelait à la base The Flood, donc comment on pourrait traduire ça,
l'inondation,
voilà. Bon, ce qui est pas hyper funky comme titre, hein, non plus, tu vois, ça on dirait un film français d'un seul coup là, tu vois, c'est
ouais, enfin bon, ça sonne toujours mieux que La Bûche.
Ouais, non, mais je sais pas, c'est tu vois, on dirait, je sais pas, la fuite d'eau, là, ça fait bizarre, quoi, tu vois. Le dégât des eaux, tu vois, c'est un truc un peu étrange, c'est peut-être petit québécois, remarque. Après, Clanche, tu vois.
Nos amis québécois, si vous connaissez le titre de Hard Rain, le titre québécois, si vous êtes sur YouTube, mettez-le dans les commentaires, parce qu'on voilà, est très curieux de savoir.
Et en plus, vous pouvez vous foutre de notre gueule, parce que Pluie d'Enfer, c'est quand même un gros titre de merde aussi, il faut le dire.
Ah, ça, il y en avait un paquet en plus, voilà. À l'époque. Hein,
ouais, on va y revenir après. Mais le truc, hein, donc, c'est que effectivement, il y avait un côté high concept, c'est-à-dire tu mélanges film d'action, parce que c'est un vrai film d'action avec Kafka, et tout ça, etc. Le personnage de Christian Slater, c'est un convoyeur de fond. C'est quand même un type de personnage qu'on voyait pas forcément souvent au cinéma. Bon, on voit pas forcément souvent au cinéma tout court.
On voit toujours pas, oui, effectivement.
Il y a le film de Boukrieff après, tout ça, etc. Il y a récemment le remake par Guy Ritchie, quoi. Mais en dehors de ça, en gros, c'est pas un personnage que tu vois si souvent que ça. T'as tous ces éléments-là, plus en fait le côté effectivement film catastrophe, qui d'un seul coup bah crée en fait une ambiance déjà assez assez chouette, quoi, mine de rien. Tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de travail, hein, sur le film, ça se sent en termes de lumière, en termes de tout ça, quoi. Et puis ça crée un cadre finalement assez spectaculaire, assez inédit, parce que chaque scène d'action qui pourrait être finalement assez basique, assez classique, hein. Moi je pense à la scène du jet ski par exemple dans l'école là. Bah tu te dis bah putain, ils sont dû vraiment se faire chier à la faire, tu vois, pas seulement en dur forcément ou je sais pas quoi, tu vois, mais vraiment en fait recréer l'école en studio, en machin, etc. dans un bassin pour faire une scène d'action qui soit quand même malgré tout dynamique, qui fonctionne si tu veux et qui soit prenante, quoi. Donc tout ça c'est plutôt cool. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, je dirais que la problématique d'un scénar de Graham Yost, c'est Graham Yost en général. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on avance, ça devient de plus en plus, ça se perd un peu, moi je trouve. C'est-à-dire que bon, déjà il y a cette problématique. Alors, parmi les comédiens, on a cité, donc il y a Christian Slater, c'est le personnage principal, c'est le héros d'action en fait que les studios essayaient vraiment de transformer à cette époque-là, comme ils ont réussi à le faire avec Nicolas Cage à peu près au même moment. En méchant,
il y a Morgan Freeman
qui était une valeur sûre, hein, des seconds rôles, hein, qui venait de cartonner avec Les Impitoyables, les trucs comme ça, qui était dans Les Évadés, hein, de Franck Darabont, ce genre de choses, quoi, qui est plutôt bien utilisé aussi là-dedans, jusqu'à, on va dire, un certain reshoot pour la scène finale. Et là, on spoil, hein, c'est quand même un méchant à la base qui va finir au bout d'un moment par s'allier à Christian Slater. Par la simple grâce, en fait, du public.
Par la simple grâce des projections test.
Voilà, c'est ça, qui ont décidé qu'on ne peut pas tuer Morgan Freeman parce que Morgan Freeman est beaucoup trop sympathique. Fort heureusement, ce n'est pas le même public test qui avait vu, Impitoyable à l'époque, puisque sinon on aurait été dans la merde, quoi.
On n'aurait pas eu le même film, c'est sûr.
Mais voilà, on n'aurait pas eu le même film. Mais là, effectivement, c'est démontré aussi la popularité du bonhomme, hein. C'est-à-dire vraiment cette idée que d'un seul coup, en fait, même si c'est un mec qui a des actes un peu répréhensibles, mine de rien, en gros, il le rend finalement suffisamment sympathique pour que le public continue à se dire « Ah, mais non !»
C'est ça, c'est que c'est un voleur, et il est jamais présenté comme autre chose qu'un voleur, même quand à la fin, il devient plus ou moins gentil. En fait, même pendant le film, il est quand même présenté comme un voleur avec des valeurs. Mmh. C'est-à-dire que il est capable d'être violent, mais c'est pas un assassin. Il est capable de tirer pour se défendre, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va tirer pour tuer. Il va tirer pour éliminer, pour blesser, pour attraper. Donc il est quand même présenté comme un type aussi droit que peut l'être quelqu'un dont le métier est d'être un braqueur de banque.
Et après, donc dans l'idée de l'écriture du film, je trouve il y a des péripéties qui pourraient finalement être assez et d'ailleurs, objectivement, elles finissent par l'être au bout d'un moment. C'est-à-dire que dans la même logique que Speed ou dans la même logique que Broken Arrow, c'est-à-dire l'action qui ne s'arrête pas, qui est tout le temps, en fait, il y a toujours un truc enfin un effet boule de neige en fait qui crée quelque chose d'encore plus gros. Il y a des scènes qui fonctionnent très bien, il y a notamment moi je pense le moment où justement le barrage commence à céder, parce qu'il y a un barrage qui est en train de céder, c'est aussi ça le truc en fait avec l'inondation autour de la ville quoi. Quand le barrage commence à céder une première fois, enfin une vanne commence à céder une première fois, Christian Slater qui est enfermé en prison manque de se faire noyer. Oui. Et ça la scène fonctionne plutôt bien, elle est assez efficace. Par exemple, moi ce que je trouve un peu moins efficace, disons, c'est le moment où il y a un poteau électrique et en fait, si tu veux, bah toute la question c'est de savoir s'ils vont se faire électrocuter ou pas, parce que tu vois l'eau elle est en train de monter et il y a un méchant qui les attaque à ce moment-là. Christian Slater qui essaie de lui expliquer qu'il faut pas qu'ils se battent parce qu'ils vont se faire électrocuter, etc. Et bon, je trouve finalement ça beaucoup plus alors sans mauvais jeu de mots, puisque c'est probablement un poteau électrique de téléphone, tu vois, c'est un peu plus téléphoné, quoi. Tu vois, c'est l'idée, en fait, si tu veux, c'est que tu te retrouves avec un truc qui, moi, je trouve, est moins fort, mais le seul truc qui le rend finalement efficace, c'est justement le fait que ça se passe sous l'eau tout le temps et que, en fait,
voilà. C'est ça, c'est qu'on a vraiment un cadre que je trouve vraiment unique, parce que j'ai pas de, enfin, c'est pas le premier film qui se passe dans la flotte, hein, loin de là. Mmh. Et puis c'est pas le premier film où t'as, par exemple, tu parlais de la scène du jet ski dans l'école, donc un jet ski dans les couloirs. On a également vu, la même année, je crois, dans Un cri dans l'océan de Steven Soderbergh.
Bien sûr. Hein.
Donc c'est pas forcément une scène qu'on a jamais vue. En revanche, de mettre un braquage dans un en plein milieu d'une inondation, en plein milieu de pluie diluvienne, où effectivement du coup la simple progression, le simple fin de marcher devient compliqué, parce qu'il faut nager tout le temps, parce qu'il faut que tu fasses attention à l'électricité, etc. Je trouve que ça fonctionne très très bien. En outre, en plus, tu parlais de cette scène justement du poteau électrique. Moi, c'est une scène que j'aime bien parce que je trouve que oui, c'est un film où l'action s'enchaîne, mais il y a quand même des tentatives de rythme différent. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gunfights purs et durs, et puis cette scène-là, elle est plus basée sur un suspense qui est peut-être, c'est vrai, un petit peu artificiel, parce que c'est juste de l'eau qui monte vers un transformateur, donc c'est vrai que c'est pas le truc, mais je trouve que c'est sauvé par ces personnages. Parce que il y a une actrice que j'aimais beaucoup, elle est apparue, elle a eu une montée stratosphérique, puis elle a disparu du jour au lendemain, c'est Miss Driver. Parce qu'elle a vraiment enchaîné Will Hunting, puis D'Enfer, peut-être dans le désordre, et Slippers. Oui, moi je trouvais qu'elle apportait une humanité naturelle. C'est, elle fait partie de ces femmes qui ont un visage hyper empathique. Dès qu'elle sourit, t'as envie de sourire. Dès qu'elle pleure, t'as envie de pleurer. C'est une actrice que j'aimais bien. Et je trouve que du coup, elle apporte pas mal le rôle.
Elle a une forme aussi assez atypique parce qu'elle a un visage très carré.
Oui.
Très, et du coup, en fait, elle a un certain charisme, en fait. C'est un truc qui ressort assez bien. Et mine de rien, moi, je trouve que le personnage est pas forcément super bien écrit, mais elle arrive plus ou moins à l'incarner, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Après, le truc, on va dire, avec la problématique d'écriture. Moi, je disais plus, en fait, qu'il y a une problématique d'écriture sur la péripétie, en fait, finalement, elle est pas hyper, hyper bien détaillée, et si ce n'est que, en fait, bon, bah, comme c'est fait dans ce cadre-là, et que finalement le cadre en soi est déjà spectaculaire, en fait, c'est presque ça qui prime sur le reste, quoi. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Après, il faut peut-être aussi revenir un petit peu sur le réal, hein, Michael Salomon, qui est à la base pas un réal, hein, qui est un chef-op, hein, ouais. Voilà, de talent, notamment connu pour avoir été le chef-op de Spielberg sur Always. Le chef-op de James Cameron sur Abyss.
Surtout, je dirais, en tout cas pour ce film-là, puisque il avait déjà fait un film en tant que réalisateur, Kalahari, ouais. Que j'ai pas vu. Mais
alors moi, je l'ai vu. Confidentiel. Au cinéma à l'époque. Alors c'était pas un truc confidentiel, c'était une grosse prod Amblin, hein, à l'époque. Hein, c'était un assez gros film, mm-hmm. Avec Reese Witherspoon, si je me rappelle bien. Alors j'ai jamais revu le film, hein. Mais qui, en vrai, c'est presque un film pour enfants. Donc c'était pas, fin de mémoire, hein, c'était pas hyper engageant, quoi. Plutôt bien shooté. Ça, tu pouvais pas lui enlever. C'est un truc qu'il a repris, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, à René Manzor. C'était René Manzor, le réalisateur de 36-15 Scott Pernell, qui devait faire ce film-là. Mm-hmm. Et Salomon l'a repris à la volée, quoi. Oui, mais après, c'était un film qui se passait dans le désert, donc il y avait tout un truc, tu vois, vraiment. Enfin, il y a quand même une logique d'éléments, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, Salomon aussi, on va dire.
Il a dû se battre pour obtenir ce film, parce que c'est quand même, on l'a dit, c'est quand même un gros budget, même si ça a été un échec colossal. 70 patates à l'époque, c'était quand même beaucoup. Pour vous donner un ratio, donc Jurassic Park le premier, c'est 65, donc c'est moins cher. Et puis c'était un film très compliqué avec une énorme logistique, et ce qui a réussi à convaincre le studio de lui donner sa chance, en plus du fait qu'il a quand même fait son lobby pour avoir le film, c'est effectivement qu'il a été le chef-op d'Abyss, qu'a été l'un des tournages dans l'eau les plus compliqués de l'histoire, tout le monde le sait, hein, et que bah, globalement, on dit, si vous tournez sur la flotte, bah, essayez de faire autre chose, parce que vous allez avoir des emmerdes de partout. Et grâce à son expérience sur Abyss, il a appris plein de choses qu'il a pu réutiliser sur ce tournage. Parce que, donc, on l'a dit, c'est 82 jours de tournage dans la flotte tous les jours, donc 82 jours, c'est 4 mois à peu près, hein, ce qui est un tournage à peu près classique pour un film de ce truc-là. Sauf que, en fait, ce comme on l'a dit, ça se passe dans une petite ville d'Indiana qui existe vraiment, qui s'appelle Huntingburg, je crois. Je suis plus tout à fait sûr du nom. Mais en fait, des journées de tournage à Huntingburg, il y en a eu 2. C'est tout. Ils ont l'intégralité du film a été faite en studio. Et ça, c'est un truc que je trouve une facture qui a complètement disparu aujourd'hui, c'est qu'on fait un film catastrophe qui se passe dans une ville et on le tourne en studio. Et comment on fait pour faire un truc pareil? Ben, en fait, ils ont d'abord, avant tout, cherché un studio suffisamment grand parce que les studios des backlots de Burbank, ils ont pas du tout la taille requise. Donc, ils ont, comme, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque du tournage de GoldenEye, normalement, les 007 étaient tournés à Pinewood tout le temps, sauf que Pinewood était pris par un autre film, je me demande si c'était pas Ice White Shot. Et du coup, ils ont dû tourner ailleurs.
Pas sur GoldenEye, non.
Pas sur GoldenEye. Ils ont dû tourner ailleurs, et c'est comme ça qu'ils ont créé Leaves Den. Et Leaves Den, c'était un studio de tournage qui était une ancienne usine d'avions. Bon, en fait, ils ont fait la même chose sur Puits d'Enfer. Ils ont trouvé une ancienne usine de Rockwell International, qui fabriquait des B1, donc des bombardiers, et la navette spatiale, notamment genre les Challengers, c'était eux qui s'en occupaient. Et ils ont réquisitionné l'endroit en disant c'est grand, puisque ça faisait 2 hectares, donc c'est quand même super balèze, hein, pour vous donner une idée, si vous êtes aussi nul que moi en maths, j'ai regardé pour vous, c'est 200 mètres sur 200 mètres.
D'accord.
Et ils ont reconstruit la ville quasiment à l'échelle 1, entièrement dans ce studio. Dans ce qu'ils ont transformé en studio. Puisque le gros avantage qu'ils avaient, ils avaient plusieurs avantages dans cet endroit. Le premier, c'est qu'évidemment, une usine comme ça n'a pas de fenêtre. Donc, ils n'étaient pas emmerdés par des sources lumineuses qu'ils ne voulaient pas avoir. La deuxième chose qui était très intéressante, c'est qu'ils avaient, dans l'usine, il restait des grues. Et les grues, en fait, leur ont permis, pendant le tournage, de pouvoir déplacer les décors.
D'accord.
Et c'était l'un des gros avantages. Il y avait la taille, forcément, l'absence de fenêtres et les grues. Et pourquoi ils avaient besoin de déplacer les décors? Bah, tout bêtement, en fait, parce que, comme tu l'as dit, il va y avoir, à un moment du film, la rupture d'un barrage qui va entraîner une montée très brutale des eaux. Mais comme vous le savez, les films, la plupart du temps, sont tournés dans le désordre. Donc, sur un film avec une logistique pareille, ils ont autant que faire se peut tourner dans l'ordre, mais c'était pas possible de tout faire dans l'ordre. Donc, il fallait avoir des moyens de faire autrement. Et les moyens de faire autrement, c'est tout bête, c'était qu'ils ont construit toutes les maisons sur 2 étages, avec un étage qui s'enlevait. Donc en fait, ils soulevaient le deuxième étage avec la grue, ils enlevaient le premier étage et ils remontaient dans l'eau. Donc tu avais une impression de montée des eaux naturelles qui fait qu'ils pouvaient le gérer relativement facilement. Une autre chose qui est à savoir, qui est super intéressante à mon sens sur le tournage, c'est que même s'ils ont reconstruit à l'échelle 1 cette ville, ça restait une ville de cinoche. Donc en gros, c'était du bois qui flotte. Le bois de décor, c'est du contreplaqué, quoi. Ouais, ça flotte. Ouais. Donc il a fallu qu'il leste toutes les baraques une par une pour que ça fonctionne. Et tout ça, en fait, tous ces petits éléments-là, Michael Solomon les avait appris, notamment à travers son travail avec James Cameron.
D'accord.
Et il y a un autre truc qu'il a appris, tu parlais de la scène de la prison, justement. Et la scène de la prison, pareil, c'est de monter les eaux très rapide. Et là, en fait, grâce au travail sur Abyss, Michael Solomon a dit « Attention, on a notre grand bassin qui représente la ville entière, où il y avait 1,20 m de profondeur en moyenne, hein, pas plus, puisqu'il fallait quand même que les acteurs puissent se relever en cas de pépins, de soucis, de cascades qui ratent. » Il a dit « ça suffit pas, parce que il y a une technique au cinéma qui est toute simple, c'est « tu ne fais pas monter les eaux, tu fais descendre le décor. » Parce que si tu fais monter les eaux, bah, une fois que tu as fini ta prise, faut vider,
ouais,
ça prend des plombes, et puis après tu recommences la scène, il faut re-remplir, ça prend des plombes, alors qu'en fait si tu immerges le décor dans un truc, bah en fait ensuite tu le remontes et ta scène tu peux refaire ton setup en quelques minutes. Donc ils avaient un deuxième bassin au sein de ce même studio qui lui par contre faisait une dizaine de mètres de profondeur sur 40 mètres de large, ce qui leur a permis d'avoir ce genre de décor immersible à merci aux besoins.
Alors ça c'est très intéressant sur la fabrication. Après c'est vrai que quand tu regardes le style du bonhomme, finalement c'est très classique, hein, sa mise en scène, hein, elle est assez comment dire, c'est carré.
Oui.
Tu vois. Mais c'est sans fioriture, tu vois. C'est pas du tout dans les. Enfin, c'est-à-dire c'est marrant parce que je sais pas si tu te rappelles de ça, mais le film à l'époque avait été vendu avec la musique de Hans Zimmer de The Rock.
Laquelle? Ah. Belle musique. Sur
la bande-annonce, quoi. Et c'est pas du tout du Michael Bay. En fait, le film, c'est vraiment filmé. C'est pas du James Cameron non plus, hein. Voilà, loin s'en faut, quoi. Mais c'est vraiment filmé de manière assez classique. Ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de moments. Ah, moi, j'ai peut-être deux plans, en fait, mais presque, j'ai l'impression qu'ils sont imputables à la seconde équipe, en fait, que j'aime pas du tout. Dans le film, en le revoyant, ça m'a fait marrer parce que c'est la même idée de, finalement, de valeur. C'est-à-dire que c'est une caméra qui est accrochée à l'un des poteaux, par exemple, en fait, si tu veux, et qui rentre. Et je trouve que c'est quand t'as un setup aussi spectaculaire, si tu veux, à des éléments, la possibilité de gérer les éléments, etc., etc., et que d'un seul coup, t'as un espèce de plan qui, comme il est littéralement accroché.
Tu veux dire un poteau qui flotte et qui se déplace,
et la caméra est accrochée dessus. D'accord. Je trouve que ça rend le truc beaucoup moins, ça rend le truc cheap, en fait, si tu veux. Le plan est cheap, et t'en as un plan à la fin t'as un espèce de pseudo Mexican standoff en fait à la fin dans l'eau là, tu vois, où t'as un plan de vue subjectif sur le mec qui tient deux flingues, quoi, et tu fais mais c'est pareil, le
oui,
plan
c'est incongru en fait, ils sont incongrus au sein de
totalement en fait, voilà, parce que le reste est finalement assez carré, quoi, assez bien foutu. Et même ça prend en compte, par exemple, il y a la confusion d'ouverture du film, hein, quand le fourgon est attaqué. Ça prend en compte la lumière, ça prend en compte la perspective des personnages et la façon et la distance en fait entre les braqueurs et les convoyeurs de fond. Ça joue sur la lumière et c'est assez efficace en fait, finalement c'est classique, hein. Tout le film est très classique, hein. Faut être
honnête. Oui, absolument.
Voilà, mais c'est efficace, ça fonctionne, quoi. Donc du coup, ce genre de plan, c'est un peu bizarre. Bon, après, c'est deux plans, hein, en toute honnêteté. Voilà, c'est voilà. Moi, j'ai une petite anecdote aussi qui me fait. J'ai vu le film en salle, donc dans une salle où on était 5 en gros, dont deux gars devant nous, et j'étais avec un pote, et mon pote était croate. Enfin, il est croate, et du coup, il me dit, je crois que c'est des croates, les mecs devant, parce qu'ils les entendaient parler entre eux, tu vois, et ils étaient à fond la caisse dans le film, quoi. Mais genre, à fond la caisse. Et nous, ça nous faisait un peu marrer, c'était un peu un spectacle dans la salle, parce que, en gros, on se disait, ok, le film, il est sympa, mais enfin, ça va, tu vois, enfin, tu vas t'en remettre, quoi, tu vois. Et t'as notamment cette scène, mais moi qui, enfin, je me rappelle de la scène dans le film à cause voilà, c'est que t'as cette scène où t'as, comment elle s'appelle, tu vois, par exemple, en revoyant la scène, j'avais complètement oublié qu'il y avait un personnage qui essayait de la violer. Ouais. À ce moment-là, t'as Minnie Driver qui se retrouve chez elle.
Ouais.
C'est une maison à deux étages. Elle est accrochée en fait avec des menottes
à la rampe d'escalier.
À la rampe d'escalier, et le mec va pour il veut la violer, quoi, et elle le dégage, quoi, elle finit par voilà, mais elle peut pas s'enlever les menottes. Par contre, alors, elle essaye de remonter au fur et à mesure, si tu veux, à l'étage, en essayant d'enlever les menottes sans y arriver, donc on enlève les...
En même temps que l'eau monte, hein,
précisément. Voilà, en même temps que l'eau monte, en fait, pour éviter justement de se noyer, et en fait, elle enlève les rampes de l'escalier, enfin, au fur et à mesure, quoi. Et en gros, arrive Christian Slater dans une réminiscence, parce qu'elle le sauve plutôt dans le film, donc dans une réminiscence, il arrive pour la sauver, et elle est à l'étage, tu vois, et elle lui dit, j'ai une scie dans la cuisine en bas, il faut que tu plonges pour aller la chercher. Alors, Christian Slater, putain, fait chier, tu sais, donc il plonge, il trouve la scie, il remonte, et là, les mecs, ils étaient mis à bloc. Ils étaient, mais, tu sais, j'ai jamais vu ça, ils étaient en sueur, quoi, tu vois. Ah, mais c'était le spectacle, ils étaient dans la salle, quoi. Ils étaient à fond, là, tu vois. Et t'as Christian Slater, et puis ça, tu sais, en fait, quand tu revois la scène à part, parce que moi, du coup, en voyant le film, je me suis dit, putain, mais elle est complètement anecdotique, cette scène, tu vois. T'as Christian Slater qui prend la scie, il commence à scier les menottes, et en fait, les menottes, enfin, la scie se pète, tu vois, mais en une seconde, tu vois. Et là, le mec se lève et il tape comme ça, tu sais, il en pouvait plus, il était en train de vivre le tu sais, il était dedans, quoi. Il était littéralement en train de se noyer avec la nana, quoi.
C'est génial.
C'est génial, mais en même temps, tu te dis, putain, c'est rigolo quand t'as un mec comme ça dans la salle. Bon, si ça arrive avec Mad Max Fury Road, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Si tu vois ça, si tu vois un très grand film, c'est un peu chiant d'avoir quelqu'un qui surréagit, on va dire, tu vois. Mais là, c'était marrant de se dire que ce film qui finalement n'a intéressé peu de monde,
ouais,
dans le monde entier, apparemment, il y a quand même des gens qui sont littéralement à fond. Moi j'ai l'impression que c'était, tu sais, ils découvraient le cinéma, quoi, pour la première fois, les deux gars, tu vois.
Et ben, quelque part, c'est hyper émouvant, en fait.
Mais bien sûr,
t'as vécu un moment de naissance cinématographique, tu te rends compte?
C'est l'arrivée en train, tu sais, du train en gare de la Ciotat, tu sais, les mecs, ils ont vu le truc pour la première fois, ils se sont dit, putain, on va se faire écraser, tu sais. Ouais, le mec, tu sais pas, ils s'imaginaient qu'ils allaient se faire noyer. C'était super étrange, quoi. Mais ce qui, pour moi, rendait le truc encore plus incongru, c'était de se dire, mais c'est un film.
C'est un film classique.
C'est un film normal, comme quoi, tu vois. Enfin, voilà, tu sais, c'était pas. Ceci dit, bon, tu le revois aujourd'hui, voilà,
c'est l'avantage des films classiques, hein, c'est qu'ils vieillissent très bien, hein.
Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il a cet avantage-là, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux revoir le film, il est pas daté. Il y a une super chouette musique de Christian Young, qui est plutôt efficace et réussie, parce que il était surtout connu pour le cinéma d'horreur à cette époque-là, hein, et je crois qu'il a fait un lobbying, lui, pour avoir justement ce score-là.
Et il a bien fait, parce que vraiment, il a fait un super score. Ça fait partie de ces scores qui fonctionnent très très bien en dehors du film. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes pendant le film, tu vois, ça marche bien. Du coup, tu te mets à l'écouter en dehors et tu fais, ah ouais, non, mais en fait, si vous êtes client de score de musique de film et qu'il vous en manque une, là, ces temps-ci, celui de Hard Rain, il est vraiment très très bien.
Il est vraiment chouette, quoi. Et donc, alors, tu viens de citer le titre anglais.
Ouais.
Enfin, anglo-saxon, américain. Hard Rain, en français, c'est donc Pluie d'enfer.
Oui.
Et parce que c'était un peu la mode à l'époque en France, on rigole avec les Québécois, on rigole avec Clanche et ça va clencher tout ça, mais faut pas, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut pas se moquer totalement parce que aussi, mais quand même.
Il faut savoir rire, mais moquons-nous de nous-mêmes, nos traducteurs français, qui à l'époque au moins ne traduisaient pas les titres anglais par d'autres titres anglais avec des mots moins compliqués, avaient des idées de génie, puisqu'on
avait Sex Crime et Sex Intention. Ouais, en français, les deux mots étaient français en plus. Tu vois, c'est ça qui était génial.
Oui, mais les deux mots ensemble ne sont pas du français. Ouais, ouais, c'est pas grave. Et donc sur les pluies, on a eu donc celui qui a presque lancé la mode, le génialissime Une journée en enfer. Et puis alors après, on a
ça m'avait rendu fou à l'époque.
Ouais.
J'étais genre, mais c'est quoi ce titre de merde, tu vois? Genre, bon, déjà, Piège du cristal, bon, voilà, c'était resté, tu vois, au bout d'un moment, voilà. Mais donc, les mecs, c'était emmerdé, 50 minutes pour vivre, bon, tu vois. Là, Une journée en enfer, non.
Une journée en enfer, et puis
t'as l'impression que c'était une comédie.
Mais non.
Bah si, on dirait un Danny Boone.
Bref, vas-y. On a eu Une journée en enfer, on a eu dans les 5, 6, 7 années qu'on suivit, on a eu donc le Puits d'enfer, on a eu L'enfer du devoir, on a eu Les ailes de l'enfer, on a eu
Grand-mère en enfer.
L'enfer du dimanche, enfin on a eu toute une collection de films en enfer.
J'ai dit deux fois L'enfer du dimanche, je suis désolé.
Enfin, on en a eu plein. On a eu Une nuit en enfer aussi.
Une nuit en enfer, voilà.
Donc on a bien bien collectionné, parce que oui, on se moque un petit peu de Air Bagnard, qui est le titre québécois de Con Air.
Mais moi, je préfère Air Bagnard aux ailes de l'enfer.
Les ailes de l'enfer, c'est complètement con comme titre, on va pas se mentir.
Donc, c'est donc un film qui s'est complètement planté, faut le dire, quoi. On l'a précisé, quoi. C'est pas du tout. Alors après, faut être honnête, c'est pas Speed non plus, le film.
Non,
Speed, c'est un film assez redoutable, mine de rien, tu vois. C'est même aujourd'hui, tu le vois 25 ans après, c'est pareil, il marche super bien, tu vois. Là, c'est beaucoup plus,
C'est un film à la mise en scène classique dans un environnement très original. Donc, du coup.
Avec une touche de western.
Très légère. Et
tout le western dans la musique et tout, quoi.
Avec aussi des vrais défis, donc comme on l'a dit, parce que il y avait aussi, on a très peu parlé de la photo, alors qu'on est quand même, donc Michael Solomon, c'est un directeur de la photographie passé à la mise en scène.
Comme Yann de Bont. En fait, ils essayaient vraiment de vendre le concept de cette manière-là. John Woo était plus ou moins à un moment donné attaché au projet.
Ah ouais.
Ouais, mais c'était, je pense, dans le passage entre Broken Arrow et parce que. C'est ce qu'on disait, en fait. C'est-à-dire que Broken Arrow est sorti en mars, je crois, 96, si je dis pas de bêtises, ou février ou mars aux États-Unis. Et en gros, c'est exactement à ce moment-là qu'a commencé le tournage de The Flood. Donc, Pluie d'enfer, Hard Rain. Et effectivement, le film devait sortir en mai 1997. Il a été repoussé parce que, comme tu l'as dit en début de podcast, il s'est inscrit dans une espèce de revival en fait du cinéma catastrophe de cette époque-là, le Pic de Dante, il y avait
Volcano,
Daylight, tout ça, voilà. Puis plus tard évidemment Armageddon et
faut pas oublier Titanic, qui reste un énorme catastrophe quand même,
même si c'est vrai qu'on a tendance à le mettre un peu en dehors, quoi. Plus comme un drame peut-être, mais le truc c'est que il y avait Armageddon et Deep Impact, enfin bref, il y a eu énormément de films catastrophes à ce moment-là, et l'idée c'était justement de dire ouais, mais nous c'est pas vraiment totalement un film catastrophe, certes il y a le setting, certes il y a le canevas en fait.
T'as eu l'impression qu'il y a eu un peu de schizophrénie dans la façon dont ils ont vendu le film, parce que t'avais à la fois le côté s'inscrire dans la mouvance pour essayer de surfer dessus, mais ne pas vouloir en faire partie. Et c'est vrai que quand tu vois le film, c'est pas un film catastrophe, il a des arguments de film catastrophe, mais c'est pas un film catastrophe.
Non, c'est vrai, mais c'est vraiment vraiment la toile de fond en fait qui fait que voilà. Il y a aussi, moi j'aime bien ce petit truc. Alors c'est pas, ça me manque moi au cinéma en fait, les scènes intégralement ralenties.
Ouais.
C'est-à-dire il y a une scène à la fin où elle va pour prendre son flingue et tout est dilaté, tu sais, elle saute pour attraper le flingue, pour le machin, t'as le focus qui est fait sur le flingue au bout d'un moment, dans le moment où elle va pour appuyer, puis le moment où et tous ces trucs au ralenti en fait, des trucs à De Palma, tu vois, qu'il a magnifié à mort, tu vois, ça me manque en fait qu'il n'y ait plus ça au cinéma, quoi. Et du coup j'étais content de revoir ça, quoi. C'est parce que en fait on n'a pas parlé d'un truc qui est vachement important quand même dans le film, c'est qu'il y a Randy Quaid.
Il y a Randy Quaid en mode Randy Quaid. Hein,
ouais, donc, mais Randy Quaid, qui est plus ou moins le sosie de Quentin Tarantino en foireux, quoi. Encore plus foireux que Quentin Tarantino, hein, soyons. Bah non, mais c'est vrai, il a quand même une espèce de grosse tête de patate. Tu vois, quand tu vois son frère, là, comment il s'appelle, Dennis Quaid, qui est quand même le beau gosse de la famille et tout, tu vois Randy Quaid, tu fais voilà. Et Randy Quaid, il y a quelqu'un qui a complètement disparu. Tu parlais de Minnie Driver, qui a disparu, mais Minnie Driver, en fait, elle a fait un tas de films que tu regardes pas, mon gars. Elle a fait tout un tas de Miramax à la con, des anglicheries américaines, là, tu vois. Les trucs qu'on adaptait du Jane Austen ou de je sais pas quoi, enfin tous les trucs en costume cintré, tu vois, c'est tout ce qu'elle faisait après ça, hein, tu vois, après Will Hunting, elle s'est retrouvée pendant 5 ans à faire des films comme ça. C'est, toi, tu les regardais pas, toi, t'étais en train de t'étais sur Steven Seagal, tu vois.
Je l'ai vu dans GoldenEye la première fois, je crois, où elle a un petit rôle, elle joue le rôle d'une chanteuse qui chante faux.
D'accord.
C'est son apparition, ça dure 2 minutes.
Mais ça, c'était avant. Et du coup, Randy Quaid, il a aussi complètement disparu, mais là, il y a une histoire. Parce que Randy Quaid, c'est génial. Et le mec, il est rogue. Tu vois, il est parti vraiment. Apparemment, il s'est devenu un espèce de campeur.
Il s'est laissé pousser la beubare. Il est devenu survivaliste et il fait des vidéos YouTube pour expliquer que le monde entier est fou et que c'est le seul qui est sain.
Voilà. Et c'est Randy Quaid, quoi. C'est un enclin, d'un seul coup, tu revois tout Independence Day, tu revois Hard Rain tout passer, quoi. Et tu peux plus. Enfin, c'est à la fois génial de le voir là-dedans, tu vois, dans un rôle de gros con, hein, tu vois, faut être honnête, hein, dans le film, quoi. Spoiler, tu vois.
Dans le rôle du shérif pas réélu, qui du coup,
décide de partir avec le pognon, quoi, en gros. En même temps, il y a 3 spoils dans le film, hein, donc voilà.
Mais justement, on les spoil pas tous les 3, garde-en un,
Revoyez-le, vous le savez qu'on le spoil. Et c'est Randy Quaid, quoi. Enfin, encore une fois, c'est à la fois le pire et le meilleur acteur au monde, quoi, quelque part. Randy Quaid, moi, j'adore, tu vois.
Il fait partie de ce genre de mec qui joue tellement mal que ça en devient beau à regarder.
Mais en même temps, il est bon acteur. En vrai, il a des côtés bon acteur, mais c'est juste qu'il a une gueule improbable, en fait, si tu veux. Moi, Randy Quaid, ça c'est pas ta tasse de thé, mais dans Kingpin, où il joue le Hamish.
Je l'ai pas vu.
C'est une comédie des Farrelly.
Je propose qu'on revienne à Hard Rain plutôt que de parler des Farrelly.
Voilà, mais donc il était hilarant, quoi, tu vois. Donc mais en même temps, bon voilà, il a la gueule qu'il a, quoi. Tu vois. Donc bref, il y a Randy Quaid dans ce film. Il faut que vous voyez ce film. Voilà.
Écoutez-moi, je vous parlais tout à l'heure du directeur photo juste pour vous dire que du coup, c'est en fait comme tu disais, c'est comme Speed. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a créé la même chose que sur Speed, à savoir que être engagé en tant que directeur photo. Sur un film où le réal, un ancien directeur photo, il n'y a pas tout le monde cause. Parce que tu sais que le gars avec qui tu vas travailler, il connaît ton boulot aussi bien que toi et qu'il a pas forcément la même sensibilité. Donc, il va être très relou. Et du coup, le directeur photo de Puits d'Enfer, c'est Peter Menzies Jr., qui est pas franchement un débutant, puisqu'il a fait la photo de Die Hard 3, qui est peut-être pas le film le plus mal éclairé du monde. Il a fait la photo d'un film totalement oublié, mais qui est ressorti en Blu-ray récemment, qui s'appelle Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell. On peut penser ce qu'on veut du film, mais la photo est très spectaculaire.
Je suis moins fan, mais il a fait...
La photo est vraiment très belle.
Il a fait les deux Simon West, hein, il a fait ça et Tomb Raider aussi. Hein. Tomb Raider, c'est pas possible. Hein.
Ouais, Tomb Raider, c'est pas
personnellement,
possible.
C'est pas possible.
Et le 13e
Bon, évidemment, il a fait le 13e Guerrier, un petit film pas dégueulasse. Ah. Mais après, Menzies, il n'est pas utilisé de la même manière, on va dire, chez McTiernan et chez les autres.
Hein. Voilà, mais ça a été un vrai défi, une fois de plus logistique, hein, parce que quand tu fais un film qui se passe entièrement dans l'eau, où t'as 1m20 de flotte tout le temps, tu fais comment pour planquer tes éclairages? Donc il fallait que tes sources d'éclairage soient entièrement protégées de la flotte. Excusez-moi, j'ai pas trouvé le mot, donc j'ai dit ça autrement. Disons qu'il fallait que ce soit très prudent là-dessus, voilà, il y a un mot français, c'était une vraie complexité.
Ouais, le mot français, c'est waterproof.
Il fallait planquer les sources aussi de lumière. Donc, je pense que, je suis pas totalement certain, mais je pense que le côté très orangé, jaunâtre du film, parcourt aussi du fait que, on dit que c'est les éclairages publics qui restent, qui donnent un peu cette ambiance-là, parce qu'il fallait absolument planquer les éclairages.
Si c'était pas forcément, en fait, des éclairages, parce que là, maintenant, on a beaucoup l'habitude de ce type d'éclairage-là, hein, notamment dans les nuits de ville et tout ça, etc., alors qu'à l'époque, les nuits, c'était plutôt des nuits bleutées, tu vois, voilà, là, c'est vraiment des nuits qui, à cause du numérique, en fait, vraiment absorbent la source, énormément la source.
C'est ça, c'est que les caméras aujourd'hui sont capables de filmer la nuit, alors qu'en péloche, c'était très compliqué de filmer la nuit.
Voilà, Et mine de rien, en fait, arriver à faire ça, à mon avis, c'était beaucoup plus travaillé, je pense, que ce que encore une fois qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'aujourd'hui, ça s'attrape facilement. Et à mon avis, à l'époque, c'était vraiment le rendu que les mecs cherchaient à avoir de façon très très prononcée, quoi.
Et puis il y a un petit truc aussi que je trouve assez intéressant.
Un truc réaliste, en fait.
Ouais. Mais c'est ce que j'aime. J'ai toujours aimé les films assez bruts de décoffrage, les films qui vont direct au centre. Et Plus d'enfer est vraiment un film comme ça. C'est-à-dire que non, je vais pas vous vendre Citizen Kane parce que c'est pas ce que c'est. Mais si vous avez envie de vous taper un bon petit actionneur qui est vraiment fait avec l'amour du travail bien fait, je pense que vous serez pas déçu. Et tu te posais la question tout à l'heure, savoir si c'est un film Paramount, je te confirme que c'en est un, puisque le film commence en fait par un plan séquence. Alors c'est très classique à l'époque de commencer, depuis Indiana Jones, hein, de jouer avec les logos. Et le film commence donc sur la montagne Paramount qui devient une montagne, et en fait c'est un plan séquence. Le premier plan du film fait à peu près 3 minutes 30, quelque chose comme ça à peu près, et c'est un plan séquence relativement complexe, puisqu'il commence donc avec une maquette. Et il va continuer en se servant de la maquette, puis d'images de synthèse, puis de plans hélicoptères, puis de la vraie ville qui va être filmée en tant que telle sur une cable cam. Tout ça sans la moindre interruption. Alors, si vous regardez attentivement, la transition est relativement facile à identifier, puisque tu traverses un village où il y a le début de la ville où t'as des petites maisons et puis un fast-food sur le bord, et tu passes au-dessus d'une colline. La colline sert de transition à ce que le plan reste invisible, alors que tu passes d'une miniature à des plans réels qui se terminent en gros plan sur le visage de Randy Quaid.
Tout à fait.
Alors, c'est un plan super complexe.
C'est un plan super complexe qui est quand même dévoilé par des transparences pas toujours heureuses, tu vois, parce qu'on est quand même dans les années 90 et que voilà, et même dans Titanic, tu vois, si tu veux, tu grilles des trucs, donc voilà.
Non, je me souviens avoir grillé. Alors maintenant, il faut dire aussi qu'on a aussi des yeux qui sont tellement habitués qu'on repère des choses plus vite. Mais je me souviens que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était plus. J'avais l'impression qu'ils avaient, quand on passe au décor réel, ils n'avaient pas autant de pluie que ce dont ils avaient besoin pour le tournage. Et donc, il y a des voitures qui ont été un petit peu rajoutées en image de synthèse, de la flotte sur le bord des roues, pour donner l'impression qu'il y en avait plus. Parce qu'il fallait donner cette impression de déluge qui commençait, alors que c'était pas encore le cas. Donc moi, à ce moment-là, je grille la technique. Mais le reste du temps, d'ailleurs, c'est un film, comme on l'a dit, qui a très bien vieilli, alors que, comme on l'a dit, tourné entièrement en studio. Donc, si tu faisais le moindre plan, soit en courte focale pour avoir vraiment un grand panorama, ou simplement en contre-plongée, qu'est-ce que tu filmais ? Tu filmais le haut du studio
Ouais, mais c'est assez Uwe Boll qui fait ça.
Le film utilise beaucoup d'images de synthèse, mais de façon très intelligente, des
compléments de décor, en fait.
Ils ont utilisé des images de synthèse uniquement soit pour des compléments de décor sur ce plan d'introduction, soit pour faire les cieux. Bon, qui globalement était noir avec des trompes de flotte, et c'est pas les plus compliqués non plus, et également pour refaire le clocher de l'église, puisque l'église joue un rôle dans le film, et que malgré l'immensité du décor, le clocher de l'église, il était vraiment trop haut. Ouais. Donc il a été recréé en image synthèse qui, si on te le dit pas,
ouais, c'est vrai,
impossible à voir.
Après, bon, ceci dit, faut être honnête, c'est un film donc qui est pas resté pour la plupart des gens. C'est un film qui est sorti à un Blu-ray, je crois, quelque part, quoi, qui n'est pas ouf.
C'est pas la meilleure copie du monde.
Voilà, c'est un film qui mériterait presque de. Enfin bon, moi je pense que c'est un classique RTL9, si j'ai bien compris. Tu vois, ça doit être un de ces trucs qui doit vraiment.
C'est un film
de studio bazardé en fait sur les chaînes.
Ça
sonne
péjoratif de le dire comme ça.
Non, c'est pas péjoratif vis-à-vis du film. Hein. Je parle vraiment en fait par rapport à la réception, et par rapport surtout au fait que, si tu veux, c'est un film, je pense, qui était un gros atout vidéo quand c'est sorti, parce qu'ils se sont dit, ok, alors on a quand même un budget, c'est quand même un film qui a pas mal de plus-value, etc., etc. Mais après, au final, c'est un film qui a tellement pas rapporté, rapporté l'argent que le studio attendait, que je pense qu'ils s'en sont complètement désintéressés.
Ah, mais c'est sûr.
Qu'il n'y a pas vraiment un public derrière de grands fidèles, tu vois, à part toi.
C'est ça, c'est-à-dire que grâce à toi, je peux mener la croisade pour réhabiliter Puy d'Enfer.
Donc en fait, c'est sympa d'en reparler et tout aujourd'hui, d'inviter les gens à revoir le film, ou le redécouvrir, ou le découvrir en tout cas, s'ils n'ont pas vu. Moi, je serais pas aussi catégorique que toi sur la qualité d'écriture des personnages, par exemple, ce genre de choses. C'est pour moi, c'est un petit film de série B.
Film de série B. J'ai dit que c'était Minnie Driver qui réussissait à sauver son personnage parce qu'elle y apportait.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, après, Christian Slater, c'est pas son meilleur rôle. Il est un peu générique dedans. Morgan Freeman, il est sympathique, mais il repose quand même sur des acquis aussi, tu vois. Donc c'est un truc. Le film est cool, tu vois. C'est un film qui est cool. Si ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Franchement, vous connaissez pas, ça mérite quand même d'être vu. Il y a suffisamment de bonnes de qualité, quoi. Maintenant, on peut pas vous vendre Speed ou.
Non, on peut pas vous vendre Speed, c'est sûr. Speed est un film largement supérieur. Dernier 3 est un chef-d'œuvre absolutissime du Cinoche, ce que n'est pas Plus d'enfer. En revanche, oui, il y a. Si vous aimez les petits films secs et carrés, bon, pour un film qui est entièrement trempé, dire qu'il est sec et carré, c'est bizarre. Mais si vous aimez les films secs et carrés, c'est une bonne occasion.
Les films carrés et trempés.
Voilà, carrés et trempés. Si vous aimez les films qui, n'essayent pas de durer plus longtemps qu'ils ne le devraient, envoyé. Si vous êtes intéressé par des techniques, par la technique de fabrication du cinéma, sur comment on se prenait la tête quand on pouvait pas tout faire en image de synthèse, c'est un excellent exemple aussi à suivre parce qu'il y a plein de choses à regarder sur comment c'est fait. Si vous aimez les petits films d'action serrés comme un café trop fort, ça fonctionne plutôt bien aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons de redécouvrir ce petit film, parce que ça reste un petit film totalement oublié, parce que t'as entièrement raison, qui a été un flop pour proportion cosmique, mais les studios, quand un film ne rapporte pas d'argent, ils s'en désintéressent complètement, sauf rare exception. Celui-là, ils s'en sont désintéressés complètement, ils se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils ont un film qui est non pas un monument, mais un film très agréable à revoir, très plaisant, très facile à regarder, et moi je ne peux que le conseiller, ce film-là, quoi.
Eh bien, merci Julien. J'adore parce qu'en fait, tu viens avec une espèce de d'enthousiasme endiablé pour Pluie d'enfer. Donc voilà quoi. Donc normalement, tu as donné aux gens envie de le revoir ou de le voir.
J'espère, parce que c'est trop facile d'avoir de l'enthousiasme pour Dernier 3. On l'a tous.
Bien sûr. Après, tu sais, elle est pas à l'époque où c'est sorti. Il y a des gens qui tapaient dessus.
Les gens sont bizarres parfois, tu sais.
Oui. Merci Julien.
Merci à toi.
Merci Alain. Merci à la technique. Qui va revoir Plus d'enfer d'un seul coup là, parce qu'il s'est dit oh putain d'ailleurs.
Il a pas du tout été passionné par son téléphone pendant tout le podcast en nous écoutant pas une seule seconde, c'est sûr.
Mais si, regarde, il a un casque sur les oreilles, c'est qu'il nous entend. Merci à nos auditeurs, vous qui nous suivez ça doit être le 75e épisode de Stéroïde en podcast, tu vois, j'imagine.
Enfin, c'est pas
on les voit, en fait, on les enregistre dans le désordre. Alors,
tant qu'ils seront là, on sera là.
Tant qu'il y aura du Frank Zagarino, tant qu'on n'a pas encore touché Frank Zagarino, on pourra faire beaucoup de podcasts.
Par contre, ce jour-là, je peux pas venir, je suis désolé.
Mais si, t'aimes bien.
Non.
Tu vois, Mathias Hughes, des mecs comme ça, tu vois. Donc, merci à vous. Pour nous suivre, c'est les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter, les mots-clés sont Capture Mag, Instagram. Pour nous écouter, c'est sur les agrégateurs de podcasts habituels. Et puis, on se retrouve à la prochaine avec un film. Peut-être que les personnes ne seront pas aussi enthousiastes, on verra. Voilà. Merci à tous.
Salut!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.